Bienvenue à l'émission qui déclare la race souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut, puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 9 où c'est écrit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur ». C'est parce que Dieu est fidèle à son Fils qu'il y a même un peuple qui est sauvé. Dieu est fidèle à cette alliance qu'il a établie avec son Fils depuis l'éternité, dans laquelle il a promis sauver des pécheurs de toute nation et de toute langue, à condition que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne dans ce monde et qu'il accomplisse parfaitement la loi et la justice de Dieu à leur égard et qu'il donne sa vie en rançon afin de payer leurs dettes. Et Dieu est fidèle et juste de pardonner tous les péchés de ceux pour qui Christ a payé leurs dettes. Et il est fidèle en envoyant son esprit dans les cœurs de ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés pour les appeler à cette communion parfaite établie par le Seigneur Jésus-Christ devant son Père, afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs que le Seigneur Jésus-Christ représente. Alors ça, c'est le sens de ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 9. Dieu est fidèle. En contraste, nous ne sommes pas fidèles. Notre nature pécheresse nous rend infidèles. Et c'est ce qu'on resterait si ce n'était la grâce de Dieu qui transforme le cœur et qui nous attire au Seigneur Jésus-Christ. Mais même étant converti par l'Esprit de la grâce de Dieu, personne ne peut dire qu'il est fidèle devant Dieu. L'infidélité fait part de notre nature pécheresse, et ainsi nous chutons devant le Seigneur, et nous prenons des résolutions de faire ceci ou cela, mais en fait, nous ne pouvons pas accomplir ce que nous disons, telle est notre infidélité. Mais Dieu est fidèle. La racine de ce mot dans la langue hébreu donne ce sens et ça signifie appuyer ou rester ou soutenir. Appliqué à une personne, cela veut dire quelqu'un sur qui une personne peut s'appuyer en toute sécurité. Dans le grec, le mot signifie digne de confiance ou sur qui on peut compter. Donc, lorsque nous lisons ici dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, Dieu est fidèle, cela signifie qu'on peut se confier à lui. Nous ne devons jamais nous confier en nous-mêmes, mais par sa grâce, nous nous confions à Dieu. Et il est ce qu'il dit qu'il est. Il tient à sa parole en toutes choses. Donc, la fidélité sous-entend la stabilité, ou bien l'équilibre, ce que Dieu promet, il ne change jamais. Et ainsi, étant fidèle, ça signifie la certitude ou la permanence. C'est pourquoi nous pouvons même parler de la vie éternelle que Dieu promet à ceux qu'il sauve par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est fidèle à sa parole. Ce qu'il promet dans le salut n'est pas simplement pour un moment, et puis après, maintenant, sa parole change. Non, il est fidèle. La fidélité provient de la stabilité de Dieu et le fait qu'il ne change pas. Ta fidélité reste stable. Ta fidélité est une fondation sur laquelle on peut bâtir en toute confiance sans s'inquiéter de l'avenir. C'est vrai, dans notre nature pécheresse, nous arrivons à douter de nous-mêmes, et même le péché en nous nous pousse à douter même la parole de Dieu. Mais Dieu reste fidèle. Ta fidélité est une valeur sûre. Donc, nous sommes appelés à compter sur Dieu en toute tranquillité. Parfois, on dit que on se soumet à Dieu et sa volonté, mais nous sommes toujours inquiets tout en nous soumettant. Ça, c'est le péché en nous. Mais Dieu reste constant dans son affection et dans son allégeance envers son peuple. C'est pourquoi ici dans 1 Corinthiens 1:9, c'est écrit, « Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » S'il a appelé un pécheur à son Fils, donc il reste fidèle dans cet appel, quelle que soit notre faiblesse, quel que soit notre péché. Et c'est lui alors qui nous affirme, comme le verset 8 nous dit dans le même chapitre, 1 Corinthiens 1:8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Comment être irréprochable si ce n'est dans la justice que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu accomplir à l'égard de son peuple, et ayant accompli parfaitement cette justice dans sa fidélité, Dieu est fidèle alors de continuer à compter ce que le Seigneur Jésus-Christ représente comme fidèle et comme irréprochable. C'est à cause de la justice de Dieu en Jésus-Christ imputée au compte de ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Alors nous avons cette assurance que Dieu tient ferme à ses promesses et y remplit ses engagements, contrairement aux hommes qui donnent leur parole, mais le lendemain, ils retirent leur parole. Dieu n'est pas comme ça. Nous pouvons nous fier à sa parole que nous tenons dans notre main. Cette Bible qui est inspirée de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de la vérité. Et puisque c'est l'Esprit qui l'a inspiré, alors nous pouvons nous confier à tout ce qui est écrit. Mais nous avons besoin de ce même Esprit, de nous ouvrir les yeux pour contempler et comprendre comment toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ accomplies et à cause de lui sont la vérité. Alors, lorsque Dieu dit qu'il fera quelque chose, le doute n'a pas sa place. Et voilà encore combien nous sommes pécheurs, parce que nous ignorons que c'est Dieu qui donne ses promesses à ses enfants. Pourtant, nous sommes remplis de doutes. Mais nous devons savoir qu'aucun obstacle ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Une fois que Dieu a parlé, c'est impossible que ces paroles retournent sans avoir accompli ce pourquoi il les a envoyées. Surtout, nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 55 et le verset 11. Parfois, nous imaginons que si Dieu envoie sa parole, alors ça doit nécessairement attirer les pécheurs envers Christ et accomplir cette parole pour leur salut. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la parole de Dieu n'est pas toujours prononcée pour le salut d'un pécheur. Parfois, nous lisons dans la Bible où sa parole est pour la condamnation du pécheur. Mais que ça soit pour le salut d'un pécheur ou que ça soit pour la condamnation d'un pécheur, Dieu est fidèle. C'est écrit dans Ésaïe 55, le verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point en moi sans effet. » Il ne dit pas que chaque fois que cette parole est prêchée, que cela tournera pour le salut d'un pécheur. C'est écrit simplement que cette parole ne retourne point à lui sans effet. C'est pourquoi, en prêchant la parole, ce n'est pas nécessairement chaque fois que nous allons voir un pécheur converti et se tourner vers Christ. Il y a bien des fois où la parole est prêchée et ça termine par l'endurcissement du cœur des pécheurs. Mais même en cela, cette parole ne retourne point à Dieu sans effet. C'est écrit « sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ». La Bible est claire qu'il y en a que Dieu aime et il les aime depuis l'éternité. Et dans son dessein éternel, il a ordonné leur salut et ceux-là croiront certainement. Mais il faut dire qu'il y en a aussi que la Bible dit que Dieu hait. Il a dit, j'ai aimé Jacob en Romains 9, mais j'ai haï Ésaü. Ils étaient des jumeaux. Pourtant, Dieu avait choisi un pour le salut et l'autre pour la condamnation. Et ainsi nous disons que le nom de Dieu soit loué. Mais il est fidèle à sa parole et il accomplit tout ce que sa parole doit accomplir. Il adhère fermement à sa parole. Dans Deutéronome chapitre 7 et le verset 9, nous lisons « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Le monde a un Dieu aujourd'hui qu'il appelle Dieu, pourtant il ne peut rien faire sans que l'homme ne lui donne la permission. » Ça c'est un Dieu populaire, mais c'est un petit Dieu. C'est un Dieu idole qui ne peut rien faire si l'homme ne lui donne la permission. Tel n'est pas le Dieu de la Bible. Ici, Deutéronome, chapitre 7 et le verset 9 dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aime et qui observe ses commandements. Quand c'est écrit « ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements », il faut savoir que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et observer ses commandements ne veut pas dire s'efforcer à fournir cette obéissance que la loi exige afin que Dieu nous sauve. Personne ne peut satisfaire à la sainteté de Dieu. La fidélité et la sainteté de Dieu vont ensemble. Dieu est fidèle de sauver ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais qu'est-ce que la loi donne comme commandement? C'est de regarder au Seigneur Jésus-Christ comme celui qui a accompli la loi à l'égard des pécheurs tels que nous sommes. Ce n'est pas de s'efforcer à accomplir cette loi nous-mêmes. Parce que la loi exige une obéissance parfaite. Donc, selon les œuvres de la chair, personne ne sera justifié devant Dieu. Et notez, Deutéronome 7, 9 parle de la fidélité de Dieu envers son alliance. Dieu fidèle garde son alliance. Et notez, et sa miséricorde. C'est toujours selon sa miséricorde qu'il sauve des pécheurs et il est fidèle. Est juste de pardonner tous ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang jusqu'à la millième génération. Quand la Bible utilise le chiffre 1000 comme 1000 ans, c'est une manière d'exprimer un nombre infini d'années. Donc jusqu'à la millième génération veut dire sans fin. Le même Dieu qui a sauvé ceux de l'Ancien Testament dans sa grâce est le même Dieu aujourd'hui qui sauve. Parce que le salut a été accompli dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans ce monde. Il a vécu cette vie parfaite et il a donné sa vie. Et Dieu, étant fidèle, ayant accepté l'œuvre du Christ à l'égard de ce peuple qu'il a élu, alors il est fidèle de pardonner chacun. Et nous avons visiblement, même autour de nous, un exemple de la fidélité de Dieu pour que nous ne doutions point, et cela concerne la création. Lorsque Dieu a établi la lune, le soleil et les étoiles, nous voyons sa fidélité manifestée à travers sa création. Sans aucun doute, nous avons le jour et la nuit fidèlement. Chaque fois que nous nous couchons la nuit, nous nous levons anticipant que le soleil se lèvera aussi et se couchera exactement selon ce que Dieu a ordonné, parce qu'il est fidèle. La lune donne la lumière pendant la nuit et elle ne change pas. Elle accomplit sa mission sans relâche. Et Dieu a établi l'univers selon ce qu'il est. Il ne change jamais. Donc, nuit et jour, la création manifeste la fidélité de Dieu. Et c'est ainsi dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13 et le verset 8. Nous voyons qu'il est le même jour après jour, année après année, et de génération en génération. C'est pourquoi nous pouvons et nous devons nous fier à lui, parce qu'il est fidèle, quoique nous sommes infidèles. Dans Hébreux chapitre 13 et le verset 8, c'est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc nous pouvons nous confier à lui. Et c'est pourquoi le verset 9 nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » La grâce de Dieu est toujours en rapport avec la fidélité de Dieu, et de ne pas être attiré de droite à gauche, non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu de n'importe quelle manière, comme beaucoup font en inventant de nouvelles manières de s'approcher de Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie. Il dit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les Juifs continuaient, même après la mort du Seigneur Jésus-Christ, à offrir des sacrifices des animaux. Il dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, noté par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas fié à la religion de son jour, mais il est venu pour accomplir la loi et la justice de Dieu fidèlement. Et puisque Dieu est fidèle, il a une fois pour toutes justifié, déclaré juste, ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. C'est pourquoi nous ne devons pas croire aux commentaires des gens aujourd'hui qui disent que, oui, le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour tenter sauver tous les êtres humains. Je dois dire que si Christ a versé son sang pour un pécheur et ensuite ce pécheur finit par aller en enfer, cela veut dire que Dieu est infidèle. Ça ferait de Dieu un Dieu infidèle parce qu'il a promis, sauvé par le sang de son Fils, chacun pour qui Christ est mort. Donc dire que Christ a versé son sang pour un pécheur et en fin de compte, ce pécheur n'est pas sauvé, donc ça rendra Dieu infidèle à sa parole. Mais le problème n'est pas avec Dieu, le problème reste toujours avec l'homme et ses interprétations. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour tous les êtres du monde entier. Quand la Bible utilise le mot « monde », c'est toujours dans le sens ethnique. Et expliqué, par exemple, dans Apocalypse chapitre 5, et le verset 9, où c'est écrit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes Ce n'est pas écrit tous les hommes, mais des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ça, c'est la promesse de Dieu que ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés par son sang, ils font partie de ce royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils règnent. Cela ne peut pas être dit de tous les êtres du monde parce que Christ n'a pas versé son sang pour tous les êtres du monde entier, mais des pécheurs, des hommes de toute nation et de toute langue, de toute tribu. Dans le psaume 89 et le verset 1, nous voyons ces instructions qui sont données pour ceux qui sont ainsi sauvés par la grâce de Dieu. C'est écrit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité à toutes les générations. Comment nous pouvons savoir qu'un pécheur est l'objet de la grâce de Dieu en Jésus-Christ? C'est écrit, celui-là chantera toujours, notez, les bontés de l'Éternel. Il y en a aujourd'hui qui ne cessent de chanter leur propre bonté comme s'il y en avait. Mais non, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu reconnaissent qu'ils n'ont en eux-mêmes aucune bonté et que toute la bonté, même ici, c'est mis au pluriel, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Dieu est toujours bon envers ceux que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, a sauvés et a payé la dette. Et donc, ma bouche fera connaître à jamais, notez, ta fidélité à toutes les générations. Donc, où il y a la bonté de Dieu, il y a la fidélité de Dieu. Les deux vont ensemble. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir cette assurance que si Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, donc nous sommes certainement sauvés à jamais. Et c'est ainsi que la parole de Dieu rassure ceux envers qui démontre sa fidélité dans le salut. Alors, lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons premièrement la fidélité de Dieu dans le fait que Dieu est vrai et que sa promesse est sûre. Dans toutes ses relations avec son peuple, Dieu est fidèle. Nous ne devons jamais douter de sa fidélité. Et nous voyons cette vérité précieuse exprimée partout dans les Écritures. Le temps nous manque de regarder tous les versets qui soulignent cette vérité. Mais c'est la base de toute confiance en Dieu, le fait qu'il est fidèle et qu'il accomplit tout ce qu'il dit qu'il fera. Ainsi, nous pouvons nous confier à sa parole. Encore une fois dans l'Épître aux Hébreux, et le chapitre 10 et le verset 23, nous lisons ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est Dieu qui nous donne la foi de croire en Christ et celui qui retient cette foi ferme. Ici, c'est écrit, retenons fermement la profession. Le mot profession signifie confession de notre espérance. Qui est notre espérance? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ avec mes propres yeux, mais je crois à cette parole que je vous annonce. Et donc, par sa grâce, je retiens fermement cette profession en Christ, mon espérance. Et pourquoi? C'est écrit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, combien c'est bien de lire les promesses de Dieu en Jésus-Christ trouvées dans les Écritures et de savoir que ces promesses sont fidèles parce que Dieu est fidèle. Donc, il est fidèle parce qu'il est Dieu, il est fidèle parce qu'il est vrai, c'est lui qui est la vérité. Et nous savons que c'est cette fidélité qui non seulement sauve son peuple, mais aussi préserve son peuple. Dieu est fidèle, comme nous avons vu déjà dans 1 Corinthiens, et le chapitre 1 et le verset 9, celui qui nous a appelés à cette communion avec son Fils. Donc, notre confiance est toujours dans ce fait que ce que Christ a accompli, Dieu est fidèle aussi de garder cela jusqu'à la vie éternelle. Mais nous devons aussi reconnaître que, étant des enfants de Dieu, et nous sommes toujours pécheurs, donc nous avons besoin d'être disciplinés par Dieu. Il doit donc châtier ceux qu'il aime, il châtie. Ce n'est pas une punition, mais c'est un châtiment. Mais Dieu est fidèle même en cela, du fait que lorsqu'il châtie, c'est toujours dans l'amour et non pas dans la colère. Si Christ a payé notre dette, donc toute la colère de Dieu a été versée sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans ces châtiments, il n'y a pas de colère en cela. La Bible dit que ce que Dieu aime, il châtie. Et même en cela, il est fidèle dans ses châtiments. C'est pour notre bien, afin que nous restions toujours auprès de lui et que nous avons toujours des yeux vers lui comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Donc ces afflictions dont il nous afflige, c'est pour notre bien. Autrement, on allait courir dans la même voie que le monde. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Et donc Dieu est fidèle en préservant son peuple, mais il est aussi fidèle en disciplinant son peuple, ses enfants. Mais aussi, nous pouvons dire que Dieu est fidèle en glorifiant son peuple. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 24, nous lisons ceci. « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Oh, combien cela me réconforte dans des temps difficiles, où parfois il me semble que je suis en train de me noyer dans mon péché et dans les afflictions de ce monde, mais de savoir que Dieu est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. S'il m'a appelé, c'est parce qu'il m'a choisi bien avant la fondation du monde. Et c'est pour un pécheur tel que je suis que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et il ne peut pas perdre même un de ceux-là pour qui il a versé son sang. Donc Dieu est fidèle tout en glorifiant son peuple en Jésus-Christ, préservé en lui jusqu'au dernier jour où finalement chacun de ceux pour qui il est mort sera glorifié avec lui dans les temps éternels. La promesse de Dieu est sûre et donc pour cela nous pouvons nous confier à lui. C'est pourquoi Pierre, en écrivant aux croyants du premier siècle qui devaient subir une persécution féroce à cause de Christ et à cause de l'Évangile, mais c'est avec cette même vérité que Pierre les encourageait dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 19. Il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu » remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Peu importe ce que nous allons traverser dans ce monde, Dieu est fidèle, non seulement de nous garder, mais aussi de nous préserver jusqu'au bout. Et c'est ainsi que nous avons cette bonne espérance d'être un jour glorifiés avec lui dans la vie éternelle. Alors que le Seigneur Dieu fidèle soit béni en toutes choses. Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shreve.com. grace.org.